Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Guillaume.
On va au Brésil.
Oui, ce matin, le site du journal Folha de São Paulo scrute l'événement minute par minute et pour cause. Quelques heures seulement séparent désormais l'ex-président brésilien Lula de la prison. Hier, le juge anticorruption Sergio Moro lui a laissé jusqu'à cet après-midi 17h pour se rendre. Avec les lettres de Lula dessinant les barreaux d'une vaste porte de prison occupant toute sa première page, le titre extra écrit ce matin, Lula presque ici. De son côté, le quotidien Estado de Minas se félicite de cette décision considérée comme une victoire pour l'opération main propre lancée par la justice dans le cadre de la gigantesque affaire Petrobras. En revanche, d'autres se montrent beaucoup plus sceptiques. C'est le cas en particulier ce matin de l'éditorialiste du journal de Brésil. Pour lui, c'est sûr, le pire est à venir. Et pourquoi ? Parce que l'arrestation de l'icône de la gauche, cette humiliation publique, dit-il, censée symboliser la défaite du Parti des Travailleurs, ne fera qu'aggraver un peu plus encore les clivages idéologiques. Bien loin de pacifier la société, la décision de la Cour suprême risque au contraire de la radicaliser, mais là n'était pas visiblement la préoccupation de la Cour qui, en refusant à Lula son maintien en liberté jusqu'à l'épuisement de tous les recours possibles, ne visait en réalité qu'un seul objectif, sortir le favori des sondages de la course à la présidentielle, sous couvert bien sûr de l'application de la loi, c'est chose faite.
Et quand l'un rentre en prison, l'autre en sort, alors l'autre c'est Carles Puigdemont.
Oui, hier la justice allemande a annoncé qu'elle autorisait la remise en liberté sous caution de Carles Puigdemont. Le tribunal estime qu'au regard du code pénal allemand, l'accusation de rébellion ne peut être retenue contre l'ex-président de la Catalogne. Alors évidemment, c'est peu de dire que la presse madrilène se montre furieuse ce matin. C'est le cas notamment d'El Mundo, pour qui l'Allemagne refuse tout simplement à l'Espagne le droit de juger Puigdemont. Et l'éditorialiste de préciser, entendons-nous bien, la question ici n'est pas de défendre mordicus la prison au nom d'une soi-disant vengeance, mais bien de savoir si nous croyons ou non que l'Union européenne existe. Un pays comme l'Allemagne, qui interdit expressément le sécessionnisme comme option politique et qui s'est d'ailleurs lui-même récemment prononcé contre la volonté de la Bavière d'organiser un référendum d'autodétermination, ne semble pas considérer que le même problème affecte aujourd'hui l'Espagne. Or, si c'est ça la confiance que nous, Européens, devons avoir dans la solidarité continentale pour repousser les coups d'État internes, alors cela signifie que l'Union européenne est un projet raté. Et de préciser, à travers sa décision, Berlin vient de nier la nature même du mandat d'arrêt européen, qui consiste en la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et l'hypothèse que tous les pays de l'Union disposent de systèmes juridiques équitables. En clair, l'Allemagne considère aujourd'hui que la justice espagnole n'est pas de rang européen et, ce faisant, poursuit l'éditorialiste, les dégâts seront profonds, non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour les institutions communautaires elles-mêmes, harcelées par une vague eurosceptique qui sera désormais plus difficile à contenir. À l'inverse, mais sans pour autant fanfaronner, la presse catalane se réjouit, elle, de ce tour inattendu, ainsi que l'écrit ce matin La Vanguardia. Parfois, certaines décisions de justice peuvent sembler kafkaïennes, dit-il. Quoi qu'il en soit, la décision du tribunal allemand est à n'en pas douter un coup dur pour les autorités judiciaires espagnoles. Quant au Periódico de Catalunya, il juge que si sur la scène politique, cette décision apparaît comme une bouée de sauvetage pour les indépendantistes, une manière de relégitimer leur combat contre un État censé les opprimer. En revanche, elle ne peut pas continuer à fixer l'agenda politique catalan, ou dit autrement, la société catalane mérite des institutions capables de surmonter la situation procédurale que traversent certains leaders indépendantistes pour parier sur une présidence efficace qui nous permettra enfin de redémarrer politiquement.
Et puis on va en Hongrie, Thomas, dernière ligne droite avant les législatives de ce week-end.
Et avec plus de 50% des intentions de vote dans les sondages, la victoire du parti de Viktor Orban semble assurée. Pour autant, le quotidien tchèque Hospodářské noviny juge qu'il y a encore des raisons d'espérer. Il ne croit pas que les ultra-conservateurs au pouvoir l'emporteront haut la main dimanche. Selon lui, tout populisme, y compris celui qui se fait sur le dos des réfugiés, finit par s'essouffler, surtout s'il n'y a plus de migrants au pied de la clôture qu'a fait élever le Premier ministre. Alors bien sûr, Orban a d'autres arguments à faire valoir. C'est vrai qu'au cours de ses 8 années de mandat, les dettes publiques ont été réduites et les salaires ont augmenté. Sauf que ce que le Premier ministre s'abstient de préciser, c'est que la croissance est surtout liée aux subventions de l'Union européenne. Pour autant, et même si Orban essuie des pertes aux élections de dimanche, l'influence des ultra-conservateurs restera probablement intacte, redoute de son côté Der Standard. Et pour une simple et bonne raison, ces dernières années, ils ont trusté la plupart des postes clés.
Enfin, moins de 10 jours d'élections locales en Suisse, cette fois-ci, voilà qu'une bien étrange polémique s'invite dans le canton de Genève.
Oui, le parti du président de la République française, Emmanuel Macron, a sommé un élu d'abandonner FISA le nom de sa nouvelle formation politique, Genève En Marche. Les avocats genevois du parti macronien mettent en avant le risque de confusion entre les deux formations, d'où cette question. Sous l'angle du droit, l'expression « En Marche » est-elle protégée, interroge le Temps, pour Maître Bonan, mandaté par Eric Stoffer pour répondre aux attaques du parti du président de la République française. Tout ce qui désigne le mouvement ne peut pas faire l'objet d'une protection de marque. En clair, un parti n'a pas la main mise sur des expressions de la langue française, sans compter, dit-il, que la clientèle des deux partis n'est pas la même. Par définition, la République En Marche ne peut viser que l'électorat français, alors que la formation de son client établit un programme politique destiné aux citoyens genevois. Le logo où figure l'aigle et la clé du drapeau cantonal ne permet d'ailleurs aucun doute. Toujours est-il que le délai fixé pour changer de nom tombe 5 jours avant l'échéance du 15 avril, date donc du premier tour des élections cantonales. Toujours dans les colonnes du journal, Maître Bonan s'étonne ainsi de cette intrusion de la politique française. Selon lui, il s'agit d'une tentative évidente d'interférer dans les élections genevoises. Ils veulent porter atteinte à l'image et à la crédibilité d'un parti politique qui a influencé le sort des élections à venir, dit-il, avant d'ajouter « Qu'est-ce que c'est que cette manière de caracoler sur notre territoire ? Il y a longtemps que nous ne sommes plus une province française. »
Merci Thomas Cluzel.